Bonjour et bienvenue pour ce nouveau message de l'Église Hillsong France. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter www.hillsong.fr.
Nous voulons aller directement dans un passage qui m'a tellement touché dans Ésaïe 44, les versets 1 à 8. Et peut-être un petit arrière-plan de ce texte-là, c'est Ésaïe qui parle et c'est peut-être le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Et il a vécu dans des temps qui étaient complètement incertains. Le déclin d'Israël était évident. Il a été pris dans le sandwich entre les Assyriens d'un côté, de l'autre côté il y avait l'Égypte. Donc c'était un temps de trouble. Et il ne savait plus comment s'en sortir. Et au milieu de ce trouble-là, Dieu lui montre encore une vérité bien plus horrible. Israël allait tomber. Donc c'était une nouvelle qui était désastreuse. Et moi je me dis, ben, peut-être toi aussi tu vis dans des temps comme ça où c'est complètement incertain dans tout ce que tu as, des troubles qui t'entourent. Mais dans tout ça, il y a Dieu qui veut te parler. Donc regardons un petit peu ensemble Ésaïe 44, versets 1 à 3. C'est écrit, « Écoute maintenant Jacob, mon serviteur Israël, toi que j'ai choisi. » Voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a fait, celui qui t'a façonné depuis le ventre de ta mère, celui qui est ton soutien, n'aie pas peur, Jacob mon serviteur, Yeshurun, toi que j'ai choisi. Je t'invite avec ces premiers versets à découvrir 5 vérités que Dieu veut faire de nouveau dans ta vie. Et la première vérité que nous voyons ici, c'est à répétition, c'est écrit « Toi que j'ai choisi ». Et il dit encore une fois, « Toi que j'ai choisi ». Ça, c'est la première vérité. « Je te choisis de nouveau ». Voilà ce qu'il fait. Et il faut que nous l'entendons également. Nous sommes le choix de Dieu. Ça veut dire également qu'il croit en toi. Avant même de pouvoir choisir moi, avant même de pouvoir moi l'élire lui, il t'a choisi avant même de tout ça. Et Dieu dit, « Je te veux toi dans mon équipe. » Oui, toi. Toi derrière ton écran, je te veux dans mon équipe. Tu es mon choix. Tu es son choix avant d'être le tien. Honnêtement, si je devais me choisir dans une équipe, je ne le ferais pas. Je connais mes faiblesses. Je connais mes manquements. Je sais où moi je ne suis pas bon du tout, où j'ai mes humeurs aussi. Mais c'est tellement important de reconnaître toi et moi. Je suis sans choix. Rien à voir avec moi et tout à voir avec mon Dieu. Ce que lui, il voit en moi. Le oui qu'il a pour moi. Oh, tu sais, moi j'aime les mariages. Parce que voilà, on a célébré quelque peu là cet été avec les circonstances. Mais pourquoi je les aime? Parce que c'est deux oui pour une vie. Et je crois que c'est la même chose aussi, tu vois, que c'est tellement génial qu'après 20 ans, tu peux dire à ta chérie encore, je te choisirai toi encore aujourd'hui, encore une fois. Et moi, je ne sais pas où toi t'en es avec Dieu, mais laisse-moi te dire, son oui pour toi est irrésistible. Et est-ce que toi, tu veux dire oui? À la fin de ce service, moi j'aimerais bien prier pour certaines personnes, prier pour toi là où toi tu es. Et si toi tu veux dire oui, j'aimerais prier en particulier pour toi ce matin. Tu es sans choix. C'est pas facile de reconnaître que je suis sans choix. Souvent on se dit, mais moi j'ai pas ce qu'il faut. Hein. Moi, je connais mes faiblesses. Et puis, de toute façon, Dieu me choisit, mais je crois qu'il s'est trompé. Il s'est trompé de numéro. Et on est en bonne compagnie ce matin, parce que quand je regarde la Bible, il y en a plein de héros de la foi qui étaient dans le même cas. Par exemple, Moïse. Dieu appelle Moïse et lui dit, « Moïse, Moïse. » Pourquoi il le dit deux fois? Mais parce que peut-être Moïse avait besoin de l'entendre à répétition, de nouveau. Et peut-être toi et moi, nous avons besoin de l'entendre de nouveau. « Tu es mon choix, de nouveau. » Malgré le passé, malgré les faiblesses, malgré les manquements. Ici, c'est écrit Jacob. Ah, Jacob, il avait un passé qui pouvait se résumer en deux mots. lutteur et trompeur. Voilà ce qu'il était. Et j'aime ça tellement que Dieu, il prend son nom et lui donne un nouveau nom. On l'a lu ensemble, il dit « Jacob, mon serviteur Israël ». Jacob, ça veut dire « je lutte avec Dieu ». Je lutte, je suis un lutteur. Mais en même temps, Dieu Israël, ça veut dire « Dieu triomphe ». Dieu se bataille pour toi. Oh, il change complètement la donne. C'est écrit dans Genèse 32, 28, 29. Il demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob ». Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël ». Il lui donne un nouveau nom. Ça veut dire que « Moi, je triomphe pour toi et avec toi ». Tu vois, c'est une vérité que nous devons saisir. Dieu plus toi égale la majorité. Dieu plus toi égale la victoire. Dieu plus toi égale invincible. Voilà qui est la réalité que nous découvrons. Est-ce que Romains 8, 37 ne le dit pas tellement pointilleux? Il dit « Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés ». Et l'autre transformation est également dingue. Jacob, il l'appelle maintenant Yeshurun. Yeshurun, tu sais ce que ça veut dire? Yeshurun, ça veut dire le droit, le juste. Alors que Jacob, c'est même dans son nom, trompeur. C'est rien du tout ça, mais il y a une transformation qui se passe. Il lui donne un nouveau nom et il l'appelle « Tu es juste ». À travers de ça, cette vérité qui ressort, quand nous réfléchissons trop sur nous, le doute peut te détruire. Mais quand nous réfléchissons sur Dieu, la confiance gagne. Oh, moi, je le proclame ce matin, la confiance gagne. Tu vois, quand tu poses la question « Qui suis-je ?», le texte nous le dit ici, c'est Dieu qui t'a façonné. Il a été là depuis le début, depuis ta naissance, il a déjà là, été là et il te connaît. Peu importe où tu viens, peu importe ton passé, peut-être tu as mal commencé dans la vie, peut-être tu n'as pas la bonne famille. Ta naissance n'a peut-être même pas été célébrée comme il faut. Tes parents t'ont peut-être abandonné. Mais ça ne change rien au fait que Dieu t'a choisi même avant ta naissance. Et même avant que tu sois né, il avait un plan pour toi. Oh, quel miracle, mon ami, c'est la première vérité. Dieu te choisit. Toi, il a un oui pour toi. Accepte-le. On continue dans la lecture avec les versets 3 et 4. « En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur les terrains secs. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe comme les saules près des cours d'eau. » Tu vois, la deuxième vérité, elle est droit là. « Je déverserai. » La deuxième vérité que Dieu veut dire, qu'est-ce que je vais faire de nouveau? Je vais déverser mon esprit de nouveau. Je vais déverser mon esprit de nouveau sur toi. Quel encouragement! Il veut mouiller le terrain sec. Oh, je sais une chose à propos des terrains secs. Dans mon petit jardin, quand c'est sec, c'est dur et ça ne porte pas de fruits. Mais moi, j'aime quand la pluie arrive, quand la pluie tombe, ce qui est dormant, et comme réveillé, ça devient verdoyant. Mon ami, je ne sais pas où tu ressembles à cette terre peut-être assoiffée. Mais quand Dieu déverse son esprit, tout va reprendre vie de nouveau. Est-ce que ce n'est pas comme ça que c'est écrit dans un petit prophète, Joël, dans le chapitre 3, le verset 1. « Je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. » Tu vois, à prophétiser, des vieillards des songes et des visions, tout ça, ça nous parle de perspective. Tu vois, quand l'Esprit de Dieu est déversé, la perspective change. Ça veut dire ce qui est mort peut revenir à la vie. Souvent, nous voyons sec, aride, comme un handicap, n'est-ce pas? Même avoir soif, c'est un handicap. Mais tu sais quoi? C'est la meilleure position pour recevoir. Notre responsabilité n'est pas d'arroser. Notre responsabilité, ce n'est pas de déverser. Ça, c'est Dieu qui va le faire. Notre responsabilité, les amis, c'est de recevoir. en préparant des vases vides. Comme Élisée, tu te rappelles, qui est allé voir cette veuve et il lui pose la question, mais qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle dit, moi j'ai pas grand-chose, mais j'ai un petit peu d'huile. Prépare des vases vides, prépare des récipients. Et partout, elle commençait à amasser des récipients et ça a coulé à flot, l'huile à flot, ça a déversé à flot. Où est-ce que ça s'est arrêté? Quand il n'y avait plus de récipients. Oh les amis, est-ce que toi tu veux être un récipient vide comme ça? Oh, si tu te sens à sec et à vide, tu es le meilleur candidat pour être rempli de nouveau du Saint-Esprit. Commençons à préparer, soyons des récipients vides. Cherchons des récipients vides autour de nous. Soyons assoiffés pour que le Saint-Esprit puisse nous remplir de nouveau. Amen. Verset 5. L'un dira, j'appartiens à l'Éternel. L'autre voudra porter le nom de Jacob. Un autre écrira sur sa main « Propriété de l'Éternel » et prendra avec fierté le nom d'Israël. La troisième vérité que Dieu nous répète encore une fois, « Je sauve de nouveau. » Je sauve de nouveau. Et ici, ce n'est pas seulement répété deux fois, mais même trois fois. Encore et encore et encore, Jésus sauve, appartenir, porter le nom, propriété de l'Éternel. C'est tellement fort comme langage. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Tu fais partie maintenant de la famille. Tu fais partie de la famille de Dieu. Moi, j'aime ces trois fois que c'est mentionné. Ça me rappelle tellement la parabole du semeur. 30 fois, 60 fois, 100 fois. Tu vois, la multiplication, elle n'est pas juste une addition. Sinon, ça aurait été 30 fois, 60 fois, 90 fois. Ou pour les Genevois, 90 fois. Mais c'est 100 fois, c'est une multiplication, c'est exponentiel. Et dans la parole de Dieu, la première église, tu trouves la multiplication exponentielle. Chapitre 2, il y a 3000 personnes d'un seul coup qui sont ajoutées, qui sont sauvées, des personnes qui se tournent vers Jésus. Et deux chapitres plus loin, on trouve Pierre et Jean dans la prison. Est-ce que tu crois que la prison aurait arrêté le mouvement de Dieu qu'il y avait? Il y avait encore 2000 personnes qui étaient ajoutées comme ça d'un coup. Et moi, je me dis, mais ça, c'est la multiplication. Est-ce que nous sommes prêts pour ça? Imagine un peu, s'il y a tellement de personnes qui s'ajoutent. Il y a tellement de salut qui est dans sa maison. Est-ce que tu vois la récolte avec moi, mon ami? Mais là, il y a tellement de choses à faire. Ce n'est pas le moment de se reposer là. C'est le moment d'y aller. Quand il y a des personnes qui ne savent pas comment prier, tu dois te lever, mon ami. S'il y a des personnes qui ne savent pas comment lire la Bible et qui ne savent pas où est Joël et où est Jacques et où sont toutes ces personnes dans la Bible, il faut les aider à grandir dans leur foi. Il faut les aider, il faut être là. C'est le moment de devenir actif et de se préparer pour ça, pour que chacun puisse trouver son identité en Jésus-Christ. Tu vois, l'Église n'a jamais été un club exclusif. L'Église a toujours été une famille inclusive. Des personnes qui aiment avec le même amour qu'ils ont reçu de Dieu et qui se rendent compte que moi aussi, moi, je ne l'ai pas mérité, mais je suis adopté dans sa famille. Je fais partie de quelque chose de bien plus grand grâce au salut que je trouvais en Jésus-Christ. Et puis après les versets 6 à 8, c'est écrit, voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël et celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est pareil à moi, qu'il proclame, qu'il relève et qui m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'on révèle aussi l'avenir et ce qui doit arriver. Mais quelle phrase marquante ici dans le texte. Je suis le premier et je suis le dernier. Ça nous rappelle l'Apocalypse, n'est-ce pas? Le dernier chapitre du livre, tout à la fin de la Bible, les derniers versets, c'est et Jésus qui déclare sur lui-même, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Moi, j'aime les innovations, les choses nouvelles, complètement une découverte nouvelle. Et puis, il y a des innovations comme ça qui sont révolutionnaires, n'est-ce pas? Hein? Par exemple, ce que j'ai entre mes mains là, petit portable. Tu sais que le portable, il a commencé en 1973 par un ingénieur qui s'appelle Martin Cooper et qui a lancé pour la première fois avec succès un appel téléphonique sans fil. J'ai même amené une petite photo avec moi, si tu veux bien regarder. Mais cette révolution avait un prix. Regarde, le gros machin que c'est, à côté, il tient un petit portable comme on connaît aujourd'hui. Mais le gros machin avait un prix 4000 euros. Il avait un poids, 1 kilo. Et puis, il avait un petit hic aussi, la batterie durait que 20 minutes. Imagine d'avoir un truc comme ça. Comment tu veux le mettre dans la poche, quoi? Mais c'était révolutionnaire. Quelque chose de nouveau a commencé. Mais est-ce que c'était vraiment si révolutionnaire que ça? Parce que finalement, ça servait toujours à téléphoner. Il n'a pas inventé le téléphone. Il a inventé le téléphone sans fil. Et puis, moi, je me dis que peut-être... C'est la même chose avec Dieu, n'est-ce pas? La même chose avec Jésus, tu sais? Là, dans le texte, il dit « Je suis le premier ». Il ne dit pas ici dans le texte que « Je commence quelque chose de nouveau ». Jésus ne produit pas seulement des premières. Jésus ne fait pas seulement sortir des innovations. Jésus n'est pas seulement dans le spectaculaire, dans du jamais vu. Tu sais, comme un petit magicien qui sort de son chapeau un lapin. Peut-être. La meilleure nouvelle, c'est ça. Je suis le commencement. C'est-à-dire, il peut faire encore et encore et encore et répéter encore quelque chose de nouveau. Tu sais, si Jésus il dit « Je suis le commencement », ça veut dire qu'il n'est pas seulement une action. Le commencement, c'est sa nature. C'est qui il est. Hébreux 13, verset 8 le dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Et tu vois, un petit peu comme le portable, c'est peut-être modifié, peut-être il y a une petite nouveauté, une petite nuance ou peut-être quelque chose qui pourrait être révolutionnaire, mais en même temps, ça sert toujours à téléphoner. De la même façon, moi, je crois que l'Église est comme ça. Tu sais quoi? Le nom de Jésus va toujours être élevé. Il était avant et il sera après. Jésus va toujours faire des miracles. Il le faisait avant, il le fait après. Les guérisons surnaturelles sont toujours naturelles pour Dieu. C'était avant. Ça serait encore après. Jésus va toujours attendre des personnes, chacun avec les bras grands ouverts. C'était comme ça avant, c'est comme ça après. Il va toujours faire des miracles qui vont le glorifier. C'était avant, c'était après. Il va toujours pourvoir pour nos besoins, avant et après. Dieu va toujours appeler et choisir des gens comme toi, mon ami. Le Saint-Esprit va toujours se déverser comme il l'a fait avant, il le fait encore aujourd'hui. Et Jésus va toujours chercher les perdus et sauver des âmes. À nous d'ouvrir les yeux et de voir ce que Dieu veut faire de nouveau. En tant que jeune papa, moi je me souviens de notre première, tu sais, voilà, tout qui est pour un premier bébé est tellement nouveau. Et moi, je me souviens encore, comme si c'était hier. On était à table et il dit, « Mais c'est ma chérie qui me dit, « Mais Ben, t'as vu ?» J'ai dit, « Mais qu'est-ce que j'ai vu ?» Voilà. « Oh, il y a la première dent qui pousse. » Et franchement, on a vu un tout petit bout blanc sortir de la gencive. Et comme pour le prouver, ma chérie a pris une cuillère et a tapé sur la dent. Elle a entendu, « Waouh ! Une nouvelle dent !» Tu sais quoi? La dent était là bien avant. Sauf que là, maintenant qu'elle a percé la gencive, on la voit enfin. Oh, est-ce que ça pourrait être la même chose avec nous, avec toi? Peut-être il y a des choses qui sont encore invisibles pour le moment. Peut-être il y a des choses qu'on ne voit pas encore. Mais Dieu veut te donner une percée, mon ami. Et quand ça va percer, tout le monde autour de toi va le voir. Est-ce que c'est un miracle qui est en attente? Est-ce que c'est une provision divine qui n'est pas encore visible? Est-ce que c'est une onction qui est encore cachée pour beaucoup autour de toi, mais en fait, c'est déjà là et ça attend juste que ça sorte, mon ami? Est-ce que c'est un rêve qui est encore dormant? Mais quand tu vas se réveiller, tu vas voir, est-ce que c'est un talent qui est là? Et peut-être personne ne le voit encore, mais quand ça va percer, tout le monde va être étonné. J'aimerais tout simplement clôturer avec cette cinquième vérité. Dans les versets 7 et verset 8, c'est écrit « Ne tremblez pas, n'ayez pas peur, ne te l'ai-je pas depuis longtemps annoncé et révélé. Vous êtes mes témoins, y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi ? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. » Ce que Dieu veut faire de nouveau, et même dans ta vie, te dire « Je suis ton rocher de nouveau. Je suis ton rocher de nouveau. » C'est intéressant, un petit peu plus tôt dans Ésaïe, dans le chapitre 28 et le verset 16, nous pouvons lire « Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. » Quelle proclamation! Celui qui s'appelle sur ce rocher, qui est solidement posé, ce rocher qui est Jésus-Christ, lui, il sera en sécurité également. Oh mon ami, tu peux te trouver en plein cœur de la tempête. Tu peux te trouver en plein cœur de la bataille qui se déchaîne autour de toi. Les insécurités autour de toi peuvent vouloir te submerger, mais mon ami, en Jésus-Christ, tu as cette solide, ferme sécurité. Il est ce rocher sur lequel tu peux t'appuyer. Une ferme fondation qu'on ne peut pas secouer. C'est intéressant parce que Ésaïe, il dit, ne tremble pas, n'aie pas peur. Effectivement, cette nouvelle qu'il a vue aurait pu secouer plus d'un, aurait pu faire trembler plus d'un. Mais au milieu de cette insécurité, Ésaïe, il dit, de nouveau, je te le dis, je suis ton rocher. Ferme, solide, tu peux compter sur moi, tu peux construire ta vie sur moi, tu peux trouver de l'espoir en moi. Oh mon ami, peu importe où toi tu te trouves aujourd'hui, moi je veux te proposer et te poser une question seulement, de dire, mais est-ce que tu veux construire ta vie sur ce rocher? Est-ce que tu veux accepter Jésus-Christ comme ton sauveur? Ce que j'aime tellement avec tous ces versets que nous avons lus, c'est que Dieu, il veut te donner un nouvel avenir. Pourquoi il peut le faire? Parce qu'il tient l'avenir entre ses mains. Et moi, j'aimerais te présenter ce Jésus-Christ et te donner l'opportunité de dire oui à lui et à ton tour, te poser ton avenir entre ses mains. Si tu veux dire oui à Jésus, si à ton tour tu veux dire oui, j'aimerais tellement prier pour toi et là où toi tu es. Si tu veux tout simplement dans ton cœur faire cette prière avec moi, j'aimerais tellement te conduire vers Jésus-Christ et que toi, tu puisses l'accepter comme ton sauveur. Alors, on va fermer les yeux, on va prier ensemble si toi, tu veux le faire après moi. Jésus-Christ, aujourd'hui, je décide de t'inviter. Je dis oui. Merci parce que toi, tu avais un oui pour moi avant. Que tu es mort à la croix pour m'empêcher mon passé. Que tu es ressuscité pour me donner une nouvelle vie. Aujourd'hui, je suis chrétien. Merci pour ton amour et tes bras grands ouverts. Jésus, je t'aime. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons célébrer ça ensemble? Célébrer ce que Jésus a fait. Moi, je te félicite pour ta décision et voilà, je te souhaite tout le meilleur sur le chemin et que Dieu vous bénisse.
Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre église, merci de visiter www.hillsong.fr.